She threw his body in a plastic bag to cover up the rancid smell, and decayed my man. Oh, what a tragic plan. Miss Mary and her man. Never killed no woman before, never seen such blood. When she heard a man, she grabbed that six-shooter gun. There's nothing he could do, nothing he could say. He was naked with another woman, screwing around today. One, two, three, four. Was this for real? Five, six, seven, eight. She woke up on the floor at the jail. Was just an illusion, toxic thrill. Kill her man. And thing about Miss Mary was she took too many pills. Voices in her head are calling out. Miss Mary and her man. She woke up from a dream, seeing blood about. Her husband was innocent, she killed him anyhow. La 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 la.
Monday,
scrub your daddy floor
on a Tuesday.
I do a whole lot more
on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, gonna love you. I work for you, baby, work my hand to the bone. Care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I see. Slave for you, baby, every day of the week.
And on a Thursday,
forget my son, to include everyone. I tug you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter night. Take my hand, we're off to Neverland. Something's wrong, shut the light. Heavy thoughts tonight, and they aren't of Snow White. Dreams of war, dreams of lies, dreams of dragons, fire, and the things that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter night. Take my hand, we're off to Never Never Land. Under your bed, in your closet, in your head. Exit light, enter night. Grain of sand. Exit light, enter night. Take my hand, we're off to Neverland. never, never land. We're off to 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 never, never land.
About running away from you. After all you said and done, don't wanna stay with you. It seems like everything we could have done has passed us by. Yeah, I got to get moving. I'm tired of grooving with someone who can't get a high. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't wanna play by your rules. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't wanna play by your rules. My life is my own, so leave me alone. I don't wanna be your fool.
Yesterday makes me wanna stay. Wonder said was real, makes me wanna steal. Living under house, guess I'm living out my mouse. All I got is time, got the meaning just to rhyme. Take time with a warning hand, cause I like to heal. Take time with a warning hand, cause I like to steal. Take time with a warning hand, cause I like to heal. I like to steal. I'm half the man I used to be. Time with a warning hand, cause I like to heal. I like to steal. I'm half the man I used to be.
Bienvenue dans l'émission Chemin de Traverse. Pour cette émission de Chemin de Traverse, nous parlerons de la ville de Memorion, mais au Moyen-Âge, avec Béatrice Guyonnet, animatrice de l'architecture et du patrimoine, à la communauté de communes Vienne-et-Gartempe. Bonjour Béatrice.
Bonjour Jacques.
Alors, on se retrouve pour cette nouvelle émission et on va parler de la ville de Memorion au Moyen-Âge. On s'était arrêté la dernière fois au XIe siècle.
Exactement, c'était le début de l'histoire médiévale à Memorion. Voilà. Et vraiment le cœur, la naissance de la ville de Memorion.
Ramnulf avait construit son château sur la motte castrale, côté gauche de la Vartempe, parce qu'à l'époque c'était la Vartempe, pas la Gartempe. Et en face, c'était l'église, enfin le clergé qui avait construit l'église Notre-Dame. On s'était arrêté là, et aujourd'hui on va en savoir plus, avec le développement. On est au XIe siècle.
Voilà, les choses s'installent, le château est bien présent, la famille seigneuriale aussi. Il faut plus penser comme vraiment château comme un espace important, qui va effectivement de la motte pratiquement jusqu'aux abords de la Maison Dieu. Dans cet espace, il y a plusieurs édifices qu'on ne connaît pas tous, mais on sait qu'il y avait donc cette motte avec probablement une tour sur le sommet. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle l'aula, c'est-à-dire une salle seigneuriale dans laquelle le seigneur recevait en général les hommages de ses vassaux.
D'accord.
C'était un peu la salle de réception de l'époque, si l'on veut. Il y en a une très célèbre à Poitiers, c'est dans le palais des comtes de Poitou, donc la salle des pas perdus. Qui était en fait cette grande salle seigneurale. Alors évidemment c'est pas la même échelle, c'est le comte de Poitou, mais on peut imaginer donc un bâtiment spécifique aussi à l'intérieur de cet espace castral dont on a des mentions.
C'est le palais de justice à Poitiers.
Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle la salle des pas perdus, donc la grande salle, très grande salle,
avec une énorme cheminée,
avec les énormes cheminées qui sont un peu plus tardives, mais la grande salle correspond vraiment à une période. Donc
il savait s'amuser.
Ah, c'était le comte de Poitou en même temps. Hein. Donc ici c'était le seigneur de Memorion. Néanmoins il y avait cette salle qui est mentionnée dans certains textes, sans description, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Et on sait aussi qu'il y avait une chapelle qui est mentionnée aussi à la fin du XIe siècle et qui était dédiée à Saint-Michel. Donc cette chapelle Saint-Michel, comme l'église Notre-Dame, dépendait de l'abbaye de Saint-Savin. Donc à Abbaye Poitevine, donc située à quelques kilomètres d'ici, hein, 18-20 kilomètres. Donc nous avons ici une influence directe, on va dire, du côté Poitevin, mais on verra que la ville de Memorion se partage les influences aussi dans le domaine religieux, puisque d'autres églises dépendront plutôt du côté Limousin. Alors le château est bien installé, donc cet espace important, et puis très très vite, probablement dès le XIIe siècle, hein, puisque les mentions du pont arrivent à cette époque, on va avoir un axe de communication qui va se développer autour de cette traversée de la rivière, puisque avoir un pont au XIIe siècle, c'est un fait relativement rare, peu de villes en fait en possèdent sur la Gartempe, et du coup ça mobilise forcément un petit peu les traversées par Memorion, donc c'est un rôle important dans le développement économique de la ville. Donc traverser la rivière à n'importe quel moment de l'année, c'est vraiment un atout pour la ville et le développement économique de la ville de Memorion. Bien sûr, pour les habitants de la ville, mais pas seulement, puisque quand on vient du Poitou et qu'on veut aller du côté Limousin ou du côté Berry, on peut traverser la Gartempe à cet endroit-là.
D'accord.
Donc c'est un point de passage un peu obligé. donc, et qui est doublé bien sûr par des passages à gué un petit peu partout, mais l'avantage c'est que au moins on passe n'importe quel moment de l'année, quelles que soient je dirais les intempéries, donc c'est un point extrêmement important. Donc ce pont du XIIe siècle aujourd'hui n'existe plus, on a reconstruit par-dessus, mais l'emplacement était probablement le même, il est dans la continuité de la rue Montebello actuelle, donc ex-rue du Brouard, hein, qui est l'axe vraiment le plus ancien de la ville.
Donc c'est le pont qu'on retrouve aujourd'hui qui a été évidemment
reconstruit,
aménagé,
mais on est sur le même axe, hein, le même emplacement. Et on sait déjà qu'au XIe, XIIe siècle, les premières mentions qui sont mentionnées dans les premiers textes que l'on retrouve sont vraiment mentionnées justement autour de ce pont. On sent bien que c'est un point important autant que le château. Donc toute la population, on va dire, va s'installer au pied du château pour bénéficier de sa protection, mais va aussi s'installer auprès du point de passage, hein, donc rive droite et rive gauche, les deux côtés.
C'est comme une sorte de petit commerce qui s'installe autour du pont parce que...
Alors il y a sûrement effectivement pas mal de boutiques installées assez rapidement au Moyen-Âge, en fait, autour de cet axe commercial, finalement. C'est probablement effectivement un espace qui est un peu réservé aux échanges, au commerce, donc bénéficiant à la fois de la protection du château et puis de l'attractivité même du pont.
Le pont est construit, qu'est-ce qui va se passer?
Alors Montmorillon commence à se profiler, développer. Effectivement, à se développer. Alors le premier pôle, château, église Notre-Dame, vieux pont, on va dire. Ouais. Et puis, très vite, la population va aussi investir la rive droite avec l'installation d'un faubourg autour de l'église Saint-Martial. Alors l'église Saint-Martial, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vrai que c'est une église 19e siècle, mais il reste quand même un élément de l'époque médiévale, hein, du 12e siècle, hein, visible sur le côté sud. Et ça va être un autre pôle religieux qui va s'installer rive droite. Donc ce pôle autour de l'église Saint-Martial dépend, contrairement au côté rive gauche, plutôt du Limousin, puisque l'église Saint-Martial dépend de Saint-Martial de Limoges.
Oui, parce que c'est quand même assez intriguant de voir deux églises se côtoyer.
Elles se font presque face même. et c'est vrai qu'on a vraiment l'église rive gauche, l'église rive droite, avec probablement des paroisses distinctes aussi. Et puis, donc, le développement d'un autre noyau urbain, on va dire, qui va se développer autour de cet édifice à partir du XIIe siècle. Il y a d'autres édifices religieux qui vont apparaître aussi à cette époque-là, au XIIe siècle. Il y a l'église Saint-Pierre, hein, qui se situait un petit peu au-dessus de la cité de l'Écrit, vers la route de Chauvigny. Cette église Saint-Pierre dépendait de Saint-Pierre du Dorat, donc on voit encore l'influence limousine apparaître à Montmorillon. Et cette église a aujourd'hui complètement disparu, mais on en trouve trace dans les textes de façon très régulière jusqu'au XVIIe siècle à peu près, qui marque sans doute l'époque de sa destruction.
Il ne faut pas penser en effet qu'il y a vraiment une ville avec le château, l'église qui va à côté, c'est qu'il y a plein d'influences extérieures qui viennent installer aussi leurs édifices.
Exactement, il y a des dépendances notamment d'abbayes importantes, on le voit avec l'abbaye de Saint-Savin, avec l'abbaye Saint-Martial de Limoges, Saint-Pierre du Dorat, hein, c'est une collégiale extrêmement importante aussi et puissante au Moyen-Âge. Et puis, toujours à la même époque, hein, c'est vraiment une période où les constructions religieuses sont vraiment multiples. On va avoir, juste dans le prolongement de l'espace castral, le développement de la Maison Dieu, avec une première installation à la fin du XIe siècle, et puis une reprise au début du XIIe siècle, véritablement de la structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec un hôpital-monastère qui s'installe vraiment sur site, donc à partir de cette époque-là.
D'accord, c'est-à-dire que c'était déjà un hôpital à partir du...
Dès le départ, c'est un hôpital, en fait. Alors, au XIe siècle, on reviendra peut-être sur l'histoire de la Maison Dieu de façon plus précise, mais dès le départ, effectivement, on va fonder un hôpital sur le site de Montmorillon.
L'hôpital, c'est pour soigner les populations civiles, pour soigner les militaires, j'allais dire.
Alors, à cette époque-là, XIe, enfin surtout XIIe siècle, qui est la véritable naissance du site. C'est plus un lieu d'accueil. Alors, il y a sans doute quelques soins qui sont apportés, mais modeste. Et c'est plus un lieu d'accueil pour les gens de passage, les mendiants, voire des pèlerins. Donc on apporte le soin, mais plus à travers le coucher, je dirais, et le couvert. C'est un petit peu plus cet aspect-là, et les soins à cette époque sont quand même relativement limités.
Alors, il y a un vestige dont on n'a pas parlé, enfin, un reste d'édifice, on va dire, c'est Saint-Nicolas.
Oui, Saint-Nicolas, effectivement, apparaît aussi à cette époque, hein, à la fin du XIe siècle. Les mentions les plus anciennes relèvent des années 1080. Et c'est encore un exemple, j'irais concret, de cette position frontalière, puisque Saint-Nicolas dépendait de Charroux, de la grande abbaye de Charroux, dès la fin du XIe siècle. Et aujourd'hui, donc, il nous reste une partie de l'édifice. Ce qui nous reste, c'est le chevet, c'est-à-dire vraiment le cœur. Toute la partie nef a disparu aujourd'hui. Mais c'est un édifice qui a eu son importance à Montmorillon, puisqu'on y reviendra peut-être une autre fois. C'était un lieu de pèlerinage, de voyage. Donc on venait prier Saint-Nicolas pour diverses raisons.
Pendant qu'on est dans l'édifice religieux, j'ai envie que tu me parles des Grands Montains.
Oui, alors les Grands Montains se sont installés à Montmorillon au XIIIe siècle, probablement tout au début du XIIIe siècle. Les premières mentions datent de 1207. Là, a priori, une terre a été donnée par le seigneur de Montmorillon au Grand Montain. Alors, pour resituer, Grand Mont, c'est une abbaye qui était installée encore du côté du Limousin, dans les monts d'Ambazac. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que les Grands Montains, c'est un ordre assez strict, hein, bien pire que les bénédictins. C'est assez, assez austère. Et ils sont la plupart du temps installés dans des lieux très reculés, à la campagne, dans les bois. Mais ici, on a quasiment le seul exemple urbain d'une installation Grand Montain. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et ils vont s'installer sur les bords de la Gartempe dans un premier temps. Donc on va avoir ici des bâtiments qui sont là bien sûr pour accueillir les religieux. Mais très rapidement aussi, ils vont avoir un certain nombre de terres, hein, qui dépendent de leur propriété, et notamment des vignes. Et on sait qu'on mentionne très souvent les vignes autour de ce prieuré Grand Montain. Et ça semble devenir, on va dire, l'activité principale même du prieuré Grand Montain de Montmorillon. On parle d'un torculard, c'est-à-dire d'un pressoir, qui est présent à Montmorillon. Et c'est sans doute pour cette raison et pour cette production que les Grands Montains vont continuer, on va dire, à être présents sur le site pendant plusieurs siècles. Alors pour ceux qui ne savent pas bien situer ce site, c'est près de la Gartempe, pas très loin de l'hôtel Saint-Christophe, et c'est souvent ce qu'on appelle la chapelle des Grands Montains, où il y a souvent eu des expositions, notamment en période estivale. En fait, il ne s'agit probablement pas de la chapelle, mais d'une autre salle, hein, de l'ensemble, mais qui date du XIIIe siècle, avec des voûtes gothiques, encore très bien conservées, et qui est le seul vestige véritable, en fait, de cet espace Grand Montain, qui a été repris par la suite à l'époque classique avec l'installation de plusieurs hôtels, mais on y reviendra dans l'histoire de la Sénéchaussée.
Montmorillon donc devient ville royale à partir du XIIIe siècle.
Oui, en 1281, le roi Philippe III, roi de France, donc, acquiert le château de Montmorillon au seigneur de Montmorillon. Alors pour quelle raison, ça c'est difficile à dire, peut-être pour asseoir un petit peu le pouvoir royal aussi dans ce secteur. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer fondamentalement, puisque jusque-là on avait une famille seigneuriale qui transmettait son bien, donc le château et ses propriétés et sa seigneurie, à la famille, donc au fils aîné la plupart du temps. Et ici, on va avoir une gestion très différente, puisque le roi de France régulièrement va donner en cadeau, en présent, éventuellement cette seigneurie à d'autres personnes. Et de temps à autre, donc, cette seigneurie et la ville revient à la couronne de France. Donc il y a des allers-retours, on va dire, entre de nombreux propriétaires à partir de cette époque-là, jusqu'au XVIe siècle. Et on va avoir un personnage bien connu quand on se balade à Montmorillon, puisqu'on voit souvent des petites traces au sol avec une carte qui s'appelle le Valet de Cœur. Pourquoi le Valet de Cœur? Tout simplement parce que l'Aïr, donc, qui est le nom de ce Valet de Cœur, hein, sur nos jeux de cartes, c'était Étienne de Vignolles qui a reçu la seigneurie de Montmorillon, donc en cadeau, en remerciement de ses faits de bravoure. C'était un compagnon de Jeanne d'Arc. Donc il est né autour de 1390, il est mort en 1443, et il est devenu donc seigneur de Montmorillon en 1436, donc pas très très longtemps en fait avant son décès, et il va être seigneur de Montmorillon. Alors Dire qu'il a habité Montmorillon, non. Mais il a été propriétaire de cette seigneurie, effectivement, pendant un temps donné.
Donc Lahire, compagnon de Jeanne d'Arc, on est en pleine lutte contre les Anglais.
Oui.
Et la lutte contre les Anglais, à l'époque, c'est la guerre de Cent Ans.
Oui, la guerre de Cent Ans franco-anglaise. Alors, justement, Montmorillon va devenir, comme le Poitou d'ailleurs, vont tomber en fait dans le domaine anglais. Et en 1372, un personnage bien connu aussi, ça fait un petit peu appel à nos souvenirs d'enfance et aux cours d'histoire.
Oui.
C'est un certain Bertrand du Guesclin qui est un personnage vraiment important dans cette histoire de la guerre de Cent Ans, puisqu'il a repris de nombreuses villes aux Anglais. Et Montmorillon fait partie de ces villes. Donc en 1372, il va reprendre la ville de Montmorillon de façon définitive, aux mains des Anglais. Alors après, c'est vrai qu'auparavant, la ville était tombée dans le domaine anglais et qu'il y avait eu des luttes régulières entre les deux camps. Mais 1370 va marquer un petit peu la fin de cette présence anglaise sur le site.
Alors, on a parlé du château de Montmorillon. Est-ce qu'il y avait d'autres lieux de protection sur cet endroit ?
Oui, la ville elle-même était protégée par des murailles, alors qu'on ne connaît pas forcément bien, puisqu'il n'en reste rien physiquement, ou très peu en fait. Mais par contre, les textes citent régulièrement les fortifications de la ville de Montmorillon, notamment à partir du XVe siècle. On parle des barrières, des fortifications, des murailles, des fossés. Donc, côté ville haute, le tracé est un petit peu complexe. Sur les bords de la Gartempe, on sait qu'il y avait deux portes de ville qui fermaient l'accès à la ville haute. Une porte de ville qui était située près de la rue qui descend vers les Islettes. Et puis une autre de l'autre côté, qui s'appelait la porte de la Pissot. Donc deux portes de ville situées de chaque côté, qui permettaient vraiment de fermer la ville côté rive gauche, et qui la protégeaient donc par un système défensif. Alors il y avait aussi une porte de ville défensive sur le pont. Donc là, par chance, les ponts et chaussées au XVIIIe siècle ont fait des relevés du pont, et on peut encore voir sur ces relevés la porte de ville, la fortification, qui permettait aussi de bloquer le passage sur le pont. Alors, fortification pour bloquer le passage, mais qui permettait aussi de simplifier le prélèvement du péage, qui relevait du seigneur de Montmorillon à l'origine, mais qui a un peu évolué par la suite. Alors, sur les fortifications, il y avait aussi des fortifications rive droite, donc en ville basse. Et là, elles sont mieux connues, puisque le cadastre ancien, donc de 1840, montre une grande partie de ce tracé. Donc, c'est un document qui est consultable et qu'on retrouve assez facilement, et qui permet de voir le tracé de ces fortifications, donc avec des murailles, qui était percé ensuite de portes de ville aussi, et ceinturé en fait d'un fossé. Et le fossé, on le connaît bien, puisque c'est le boulevard de Strasbourg.
Aujourd'hui, on circule en fait dans le fossé.
Voilà, exactement.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve très très vite avec Béatrice, mais en attendant, il est temps de refermer la porte.
Sunday best, so debonair. Lonely ghostly specters brawl, echo the pavement's harp of fall. Torn by winds through empty roads, on the closed bypass abandoned loads. The ferry boat pub, a general store, there's nowhere open here anymore. Our forgotten towns are called. Forgotten
forgots and towns slowly raised, now quickly drowned. A legacy of industrial jails, the steelworks rusting and the concrete fails. Forgotten towns are calling. More community implodes. You're nothing, nobody, just another barcode.
Ella es ternura, una inocente locura. Ella es ternura, una inocente.
that long. I can't stop thinking that maybe something's wrong. I wanna be different, not with the same philosophy. Being late will never be for me my strategy. I hate to waste my time, cause time is money, and that makes me crazy. Sorry, I just wanna be normal. In the street, I'm walking on my own. Few lights and all is silent. Circle after circle, now it's later. Surprise, I'm sure I'm way for long. Doesn't scare me, cause it's not that strong. Sorry, gangster, you been safe for long. You know what happens when you come after the gong. Sorry, I just wanna be normal. To be on time, love a minute before. Just in case.
Sometimes I'm gonna rap back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hop in my back.